Santé.
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 C'est bon pour la 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 santé. Bon midi à tous. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette avec vous pour la prochaine heure. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé, la dernière de cette saison. On va en profiter pleinement et vous êtes sur Canal M. Aujourd'hui, à l'émission Mieux gérer la maladie chronique pour apprendre à vivre avec, c'est possible. Ça demande tout de même quelques ajustements. C'est le sujet de France Cardinal Remette, infirmière, auteure, enseignante. Aujourd'hui, les maladies chroniques, je vous le rappelle, touchent au Canada 40 % de la population, même un peu plus, c'est beaucoup. Donc, ça vous concerne peut-être de façon personnelle ou un proche. Ça devrait répondre à certaines questions. Aussi avec Martin Jarry, lui, ancien policier et entraîneur de hockey. Il vient nous parler en studio de sa vie avec cette maladie myosite à inclusion, une maladie qui est extrêmement rare, difficile à diagnostiquer, méconnue ici au Canada. Méconnu, oui, par le grand public, mais même par la communauté médicale. Son objectif à M. Jarry aujourd'hui, c'est un objectif de sensibilisation. Il est là pour mieux nous faire connaître cette maladie et aussi nous livrer un message d'espoir. Avec Dr. Langis Michaud, oui, optométrice et président de l'Ordre des optométrices du Québec, il nous parle, Dr. Michaud, de conseils pour mieux protéger nos yeux pendant cette période estivale, nos yeux sont fragiles au soleil. Oui, oui. Et finalement, on vous présente le programme Passeport qui permet à des jeunes de 9 à 11 ans d'apprendre à gérer le stress, à mieux se préparer à cette période, vous savez, un peu trouble, celle de l'adolescence, et à mieux faire face aux défis. C'est un outil qui leur sera précieux sans aucun doute. J'avoue même que j'aurais aimé avoir cet outil-là quand moi-même j'avais cet âge. Et on en parlera avec Lorraine Millette, elle coordonnatrice des programmes au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie de l'UQAM. Mais avant, la revue de presse de Christiane Campagna. Bonjour Christiane.
Bonjour Marianne.
Dernière revue de presse.
Ben oui.
On commence avec un sujet d'actualité, la crème solaire.
Oui, c'est paru dans l'actualité, c'est Valérie Borde, la journaliste. Ça fait suite à une nouvelle qui a beaucoup circulé sur les médias sociaux d'un enfant qui aurait été brûlé par sa crème solaire de marque Banana Boat. De nombreux parents affirment que leur enfant a été brûlé au deuxième degré après l'application de ce produit. Il y a une enquête en cours. Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que c'est un ingrédient interdit, un ingrédient de mauvaise qualité, mal dosé, qui se serait retrouvé dans le lot de produits du fabricant? Les produits incriminés ont été retestés. La compagnie n'a pas trouvé d'anomalie. Santé Canada enquête toujours. Mais selon Valérie Borde, il est aussi possible que les réactions rapportées ne soient pas des brûlures, mais qu'elles aient été confondues avec des allergies graves. Les écrans solaires, c'est pas des cosmétiques ordinaires, ils doivent être approuvés par Santé Canada. Il y a une liste d'ingrédients approuvés, une vingtaine de molécules, en fait, comme ingrédients actifs capables de bloquer les rayons UV du soleil. Mais aucun, on n'a jamais venu à la conclusion qu'aucun de ces ingrédients puisse causer des brûlures. Toutefois, certains sont connus pour provoquer, dans de rares cas, des photoallergies, c'est-à-dire des réactions cutanées parfois sérieuses déclenchées lors de l'exposition au soleil. On rappelle aussi que la Société canadienne de pédiatrie déconseille d'appliquer un écran solaire aux bébés de moins de 6 mois. C'est inscrit sur les bouteilles, mais comme le dit Valérie Borde, c'est rendu tellement un geste routinier de mettre de la crème solaire qu'on lit peut-être plus tout ce qui est écrit sur les bouteilles. Mais il reste on continue à conseiller l'utilisation. L'exposition UV est responsable de 90 % des cas. Ouais. De mélanome.
Le cancer de la peau est le plus courant maintenant, le plus diagnostiqué au Canada, il faut le savoir aussi, et c'est préférable d'en mettre, même si on a peut-être quelques interrogations. Maintenant, un comité montréalais se réunit pour éradiquer le VIH. Ça a toujours été une préoccupation assez importante au Québec, hein, cette maladie?
Oui, absolument. Et la Ville de Montréal s'est engagée à signer la Déclaration de Paris qui vise carrément à mettre fin à l'épidémie de sida dans le monde d'ici 2030. Première ville canadienne à ratifier la Déclaration qui a été réalisée en 2014. Montréal va créer un comité en collaboration avec le docteur Régent Thomas, qui est le fondateur de la clinique actuelle. Il va y avoir des membres du ministère de la Santé publique, mais également des organismes communautaires et des cliniciens qui seront mis à contribution. Selon le Dr Thomas, on a tous les outils scientifiques aujourd'hui pour éradiquer le sida, mais qu'il faut aussi la volonté politique. L'organisme mondial ONU-SIDA, à l'initiative de cet accord international, s'est fixé trois objectifs à réaliser d'ici 2020, c'est-à-dire 90 % des personnes séropositives doivent être diagnostiquées, 90 % de celles-ci doivent être soignées et 90 % d'entre elles doivent avoir une charge virale indétectable. Et si on fait ça, même si on ne trouve pas de traitement ou de vaccin pour prévenir, mais qu'on suit ces objectifs, selon le Dr Thomas, la maladie va s'éradiquer d'elle-même. Mmh.
Docteur Thomas, qui a fait beaucoup et qui continuera, si on vous écoute bien, Christiane Campagna, à travailler pour éradiquer le VIH. Maintenant, fibrose kystique, dépistage néonatal pour bientôt?
Oui, ça est réclamé depuis de nombreuses années par les organismes de recherche sur la fibrose kystique. Il va être ajouté au programme québécois de dépistage néonatal à compter du printemps 2018, un dépistage sanguin. La décision a été accueillie avec fierté par Fibrose Kystique Canada, dont le directeur général au Québec, Yannick Brouillette, accompagnait le ministre Barrette lors de l'annonce. Le test est implanté dans toutes les autres provinces et aux États-Unis. Le ministère de la Santé avait promis de se pencher sur la question en 2010. Il voulait, selon l'expression du ministre Barrette, mesurer la valeur ajoutée du diagnostic précoce. Mais pourtant, de manière générale, on s'entend pour dire que vu que cette maladie est difficile à diagnostiquer en bas âge, et qu'un diagnostic tardif entraîne des délais dans le traitement approprié, c'est vraiment un avantage d'ajouter ça aux tests néonataux sanguins qui sont faits donc dès la naissance.
Mm-hmm. Et maintenant, votre prochaine nouvelle qui prépare un petit peu notre prochain sujet, un texte du Devoir. Les jeunes sont plus vulnérables en santé mentale et consultent peu, selon une étude.
Oui, c'est un article de la presse canadienne, un portrait traitant de la consultation des ressources québécoises de lutte aux problèmes de santé mentale révèle que les jeunes âgés de 15 à 29 ans ne font pas grand usage des services professionnels qui leur sont offerts. C'est l'Institut de la statistique du Québec qui a précisé dans un bulletin diffusé récemment que pourtant les jeunes de cette catégorie sont touchés à 25 % par un niveau élevé de détresse psychologique comparativement à 20 % pour les Québécois âgés de 30 à 64 ans. Il en est de même pour tous les troubles liés à la consommation d'alcool et aux drogues. Parmi eux, 10 % sont affectés, alors que c'est 2,3 % pour la catégorie des 30 à 64 ans. Mais le bulletin ajoute qu'à peine un jeune sur 10 se tourne vers une ressource professionnelle pour parler de ses émotions, de sa santé mentale ou de sa consommation d'alcool ou de drogue. Comparativement à leurs aînés, ils ont moins tendance à consulter un médecin pour ce type de problème. Mais ils sont plus portés à recourir au service d'un travailleur social, d'un conseiller ou d'un psychothérapeute. Donc, environ 75 % des jeunes se tournent plutôt vers des ressources informelles pour parler de leur santé mentale, comparativement, à 57 % pour leurs aînés. Et on dit, ça peut être surprenant, ils utilisent moins Internet pour obtenir de l'information à ce sujet.
Ah, mais c'est peut-être une bonne chose. En même temps, quand on regarde des initiatives comme Tel Jeune ou encore Aneb Québec, avec qui on parlait la semaine dernière, ces organisations tentent de mettre des services de clavardage pour aller chercher les témoignages de ces jeunes et pouvoir mieux les aider et prévenir. Hein. Ça reste toujours un grand travail de prévention.
Il faudrait peut-être regarder leur manière d'utiliser Internet. Ils sont peut-être moins Google et Web et plus médias sociaux. Il faut peut-être aller les chercher là où ils sont.
On pourra en parler davantage avec Lorraine Mienne dans quelques instants. Christiane Campagnan, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Bon été à vous. Apprendre à gérer son stress dès l'âge de 9 ans, c'est possible et ça permet de mieux faire face aux défis du quotidien, de l'avenir dans la vie adulte. On en parle davantage avec Lorraine Miette de ce programme Passeport qui existe maintenant depuis quelques années. Lorraine Miette, coordonnatrice des programmes au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie de l'UQAM. Merci d'être là. Bonjour.
Bonjour, merci.
On en parlait avec Christiane Campagnan, donc d'aller chercher les jeunes et ils sont très touchés par les problèmes de santé mentale. J'ai une statistique ici sous les yeux. 22 % des 13-18 ans ont déjà pensé au suicide dans la dernière année. C'est beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça?
Bien, je n'ai pas tout à fait la réponse qu'est-ce qui explique ça nécessairement. Cependant, ce qui nous a interpellés, selon différentes études qui ont eu lieu, c'est le manque de stratégie.
Mm-hmm.
En fait, c'est les moyens que les enfants, c'est plus limité. Ils vont souvent utiliser les mêmes pour réaliser que ça ne fonctionne pas. Et dans certains cas, ben malheureusement, effectivement, ils vont se tourner vers le suicide en étant une stratégie qui pourrait enfin arrêter la souffrance.
Oui, stratégie en fait qui est plutôt définitive et on le dit un problème qui est éphémère. On va y revenir à ces stratégies d'adaptation. Avant, je veux entendre parler davantage de ce programme Passeport qui existe depuis 2011, c'est ça à peu près?
Oui, en fait, on a débuté en 2009-2010 au niveau du développement du programme. Donc, ça fait quand même un moment qu'on y travaille. Il y a eu un travail avec le milieu des allers-retours, mais pour le déploiement, qu'on peut dire, at large. Oui, effectivement, depuis 2011-2012, on y travaille.
Ça venait de quel constat chez vous?
Bien, en fait, le programme vient ou a été inspiré par celui où on déploie aux crises depuis 2004, les amis d'IPI. Et puis, suite à ce programme-là, les enseignants ont trouvé intéressant de vouloir consolider les acquis dont les enfants s'étaient appropriés avec les amis d'IPI, dont ce sont les enfants de 6 et 7 ans. Et puis, ils se disaient, bien, puisque ces prémices-là fonctionnent bien et puis qu'ils ont vu des changements au niveau du comportement, bien, il faudrait peut-être continuer à travailler avec les enfants, mais un peu plus vieux, toujours au primaire.
Mm-hmm.
Donc, ça a été suite à la demande du milieu qui nous ont dit, écoutez, continuer, trouver quelque chose qui va aider les enfants et puis qu'on puisse consolider ces acquis-là.
C'est quoi Amis d'IPI, juste pour qu'on vous suive bien?
Oui, le programme Les Amis d'IPI, c'est un programme qui vise les mêmes objectifs, dont de travailler sur les stratégies d'adaptation. Cependant, c'est visé pour les enfants de 6-7 ans.
Ah, voilà.
Alors, évidemment, c'est des programmes où... le programme est visé pour que l'enfant puisse avoir des activités qui vont lui permettre de travailler et d'élargir ses...
Oui.
Les moyens.
Et 9 à 11 ans, c'était une période idéale pour préparer le jeune à la période de l'adolescence et lui donner déjà à ce moment-là ses stratégies d'adaptation.
Effectivement, quand nous avons débuté le développement et l'implantation du programme, on n'était pas trop certain encore à cette époque-là, en 2009-2010, où le programme devrait s'inscrire exactement. Alors, en faisant le développement et en faisant l'implantation particulièrement et avec les évaluations qu'on a fait entre-temps, on s'est rendu compte qu'il y avait des changements significatifs avec avec l'ensemble du programme, avec les enfants de 9 à 11 ans. Alors, ce que ça voulait dire, malgré que de la troisième année jusqu'à la sixième année, les enfants aimaient bien le programme, on avait quand même des impacts, mais l'ensemble du programme avait un impact plus important avec les enfants de 9 à 11 ans. Alors, on s'est dit, nous allons à ce moment-là continuer et finalement viser davantage ces enfants-là.
Oui. Maintenant, en quoi consiste concrètement le programme Passeport?
Eh bien, ce sont des activités ludiques qui sont animées dans les classes par les enseignants. Il y a différents modèles, mais le modèle que nous avons évalué qui fonctionnait le mieux et qui avait un impact beaucoup plus important avec les enfants était le modèle où c'est l'enseignant qui l'anime. Et c'est des activités très simples, des activités où les enfants sont capables de se reconnaître dans le quotidien. Et pour susciter leur intérêt, bien, c'est par l'entremise des bandes dessinées thématiques à laquelle les enfants vont soit faire des mises en situation, ils ont des jeux de rôle, ils ont un grand jeu géant. Et l'objectif, c'est de travailler collectivement et non pas en compétition à trouver des stratégies, à composer, par exemple, avec une mise en situation qui est très collée à leur réalité. Donc, un exemple, il y a une activité où l'enfant va piger une mise en situation et ça peut être, bon, tu as travaillé très fort pour faire partie d'une équipe de hockey, cependant, tu n'as pas été choisi. Comment te sens-tu?
Mm-hmm.
Bien là, l'enfant, il faut qu'il prenne quelques minutes à réfléchir, ben, plutôt des secondes, à réfléchir sur le type d'émotion qu'ils vivraient. Et par la suite, collectivement, bien, quelle stratégie qu'on pourrait mettre en place pour s'aider à se sentir mieux ou si on peut changer la situation, mais toujours en s'assurant à ne pas faire de tort à personne et ça se comprend soi-même.
Et surtout, oui, c'est ça, surtout à soi-même.
Oui.
Il y a différentes thématiques, les émotions, vous en avez parlé,
voilà.
Les relations avec les autres, l'entraide, ça semble assez important.
Tout à fait.
Les situations difficiles. Il y a aussi justice, équité, égalité.
Oui.
Ça pourrait ressembler à quoi de travailler sur cette thématique-là?
En fait, on travaille sur trois fronts. Le premier, ce sont les injustices que les enfants perçoivent dans leur environnement. Le frère qui se couche plus tard, faire une activité que lui n'a pas le droit de faire, mais que, par exemple, ses amis peuvent faire. Pour eux, ce sont des injustices.
Ouais, ouais.
On aide les enfants aussi à départir un peu une injustice puis une inégalité ou une égalité, dans le sens que souvent, ils vont percevoir une injustice, mais c'est simplement une inégalité.
Oui.
Donc, on doit aider cette personne-là parce qu'elle a une problématique que lui n'a pas.
Oui.
Mais ce qu'on fait surtout, c'est d'aider l'enfant à réaliser que oui, c'est une injustice, c'est peut-être juste une inégalité. Cependant, si c'est ce que tu ressens, bien, il faut trouver des stratégies pour composer avec ça. Ça, c'est une chose. La deuxième, on va parler maintenant de l'intimidation.
Oui.
On va aider l'enseignante avec ce qu'ils ont déjà en protocole à l'école, mais d'aider les enfants à mieux reconnaître qu'est-ce que c'est l'intimidation. La définition, ils les connaissent toutes, hein? La cyber-intimidation, l'intimidation verbale, ainsi de suite, ils les connaissent toutes. Mais ils ont des fois un peu une difficulté à associer une situation avec justement la cyber-intimidation. Quand ils voient sur une carte comme... Ça veut dire de prendre, par exemple, t'es choqué contre une amie, puis de le mettre sur Facebook, qu'elle n'est pas gentille, puis des choses du genre. Ils ne réalisent pas à ce moment-là, mais ça s'appelle de la cyber-intimidation.
Ouais. J'entends que les enseignants ont épousé cette cause-là aussi. Ils vous ont suivi. Ils ont dû, j'imagine, avoir une formation.
Et voilà, effectivement. Ça, c'est primordial. Le programme vise beaucoup sur le fait que les enfants ont le savoir et que l'enseignant devient simplement le facilitateur.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment crucial parce que un enfant, pour qu'il puisse réaliser qu'il y a des stratégies, faut dans un premier temps qu'on l'aide à se conscientiser qu'il y en a. Dans un premier temps, comment ça se manifeste dans son corps quand il vit un stress, mais surtout que oui, il y en a des moyens. Mais si nous, en tant qu'adultes, on se trouve à lui donner les moyens, bien, il ne réalise pas qu'il y en a déjà d'avance. Alors, quand on fait la formation, je dois avouer que je tape beaucoup sur le clou à dire... Vous êtes que des facilitants. Vous n'avez plus le savoir. Les enfants ont le savoir.
Ouais.
Fait qu'effectivement, ça a un gros enjeu.
Et ce savoir-là, pour les jeunes, de savoir qu'ils le possèdent, c'est une grande richesse, une grande force. Et ça accentue la confiance en soi.
Tout à fait. Et ça travaille sur l'estime de soi aussi, veut pas.
Ouais.
Hein? Quand ils se retrouvent dans un groupe, il y a des enfants, des fois, qui sont un peu plus gênés, que des fois, là, ils vont parler de certaines stratégies. Et puis là, tout d'un coup, ils se rendent compte, « Ah bien, je ne suis pas toute seule à utiliser ça. » où j'ai apporté quelque chose de nouveau.
Depuis ces dernières années, vous avez probablement pu constater les effets bénéfiques pour ces jeunes. Est-ce que vous avez certains exemples, Lorraine Miette?
Oui, il y a des exemples où j'ai des enseignantes m'ont mentionné qui ont trouvé que le dynamique de la classe avait changé, qu'il semblait y avoir un peu plus d'entraide. Il semblait aussi... Il y a toujours des conflits. Notre programme, moi, j'y crois beaucoup, puis il est très bien.
Pour toute la vie.
Et voilà, mais il va y avoir des conflits. Mais j'ai des enseignantes qui m'ont dit qu'il y a des enfants qui se sont référés aux deux règles. Bon, bien, si je trouve une stratégie, il faut que ça rencontre les deux règles. Par eux-mêmes, ça leur donne un pouvoir d'agir. C'est ce qu'ils ont trouvé qui était particulièrement aidant. Avec les affiches qu'on donne aux enseignants, la formation qu'on leur donne aussi, ça les outille à donner le pouvoir d'agir aux enfants. C'est à ce niveau-là qu'ils ont vu des impacts dans leur classe.
Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire entre 2011 et 2014, le programme Passeport a été offert à 2131 enfants, 4000 enfants en 2017, Québec, Ontario, Manitoba. Il y a un projet pilote au Brésil.
Oui, effectivement, c'est assez impressionnant. Et eux, ce qu'ils ont fait, le projet pilote a eu lieu avec des gens dans l'adolescence. Mm-hmm. Alors, on parlait même des jeunes de 18 ans. Et l'impact que ça a eu, ce programme-là, avec ce milieu-là, était incroyable, dont, entre autres, au niveau de l'automutilation.
Oh! Mm-hmm.
Il y a eu, dans une classe en particulier, une jeune fille qui s'automutilait. Et quand il y a eu la présentation des deux règles, par la suite, elle a été capable d'aller demander de l'aide parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle se faisait du tort elle-même. Oui. Ça a été tellement fort qu'ils ont fait un... un des stations de télévision mm-hmm. a rapporté ça
un reportage,
parce que ça avait eu un impact si important.
Mm-hmm. Maintenant, comment on peut bénéficier de ce programme-là s'il n'est pas offert dans notre école? Je m'adresse aux parents, grands-parents qui nous écoutent, qui se disent « ça pourrait être bien pour mon enfant ».
Moi, je suggérerais, et c'est un peu pourquoi on s'organise aussi, être très présent avec la Fédération des parents, des comités de parents d'école, les conseils d'établissement, par exemple, où les parents y participent, d'aller poser les questions pour que soit la directrice ou, entre autres, les enseignantes s'informent et qui nous téléphonent. Fait que donc, pour un parent, c'est d'aller à l'école puis dire « Écoutez, j'ai entendu parler d'un programme qui pourrait aider au niveau des stratégies d'adaptation. Je serais intéressée, je le sais c'est où, je sais c'est qui. » Et puis, d'offrir l'information. C'est très puissant quand ça vient des parents.
Oui, je peux l'imaginer. Pour en savoir davantage, passeport, s'équiperpourlavie.ca. Lorraine Millette, vous êtes coordonnatrice des programmes au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie à l'UQAM. Merci beaucoup de votre passage en studio.
Merci.
Docteur Langis Michaud, bonjour.
Oui, bonjour.
Optométriste, professeur titulaire à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal et président de l'Ordre des optométristes du Québec. Dernière chronique de cette saison pour parler de notre santé visuelle. Docteur Michaud, le soleil pourrait affecter la santé de nos yeux?
Ben oui, le fameux soleil. On aime beaucoup le soleil quand on l'a manqué, mais les rayons ultraviolets. qu'on voit pas, dans le fond, mm-hmm. des rayons qu'on voit pas, qui sont un peu en dehors de notre champ de perception, peuvent, eux, nous affecter. On le sait parce que les dermatologistes nous ont bien appris ça. Hein? Quand on va au soleil, on peut avoir un cancer de peau si on se protège pas bien. Ben, les mêmes rayons qui causent le cancer au niveau de la peau peuvent aussi avoir des effets au niveau de l'œil comme tel et causer des dommages. On appelle ça de la phototoxicité, donc photo pour la lumière, toxicité, parce que ça... évidemment, ça altère les cellules au niveau de notre rétine, notamment.
Mais ça peut amener quel genre de conséquences?
Bon, différentes choses. Premièrement, la lumière du soleil et les rayons ultraviolets passent à travers notre cornée, qui est l'espèce de miroir, la surface qu'on a devant la couleur de notre œil. Si l'intensité de cette lumière-là est trop forte, ben la cornée, elle, peut absorber trop de cette énergie-là et brûler. Donc, on va appeler ça une kératite. Le meilleur exemple, c'est vous voulez demain matin monter l'Everest. Hein? Mm-hmm. Vous vous levez un matin, vous dites, tiens, je suis en forme, on monte l'Everest ce matin, on a un beau glacis devant nous, on a de la neige, ou même, c'est même à Montréal, le peu de neige qu'on a, mais si vous avez un beau banc de neige devant vous, là, mais surtout quand on est en altitude et que le soleil mire sur la neige, donc le soleil devient comme la neige devient comme un miroir, ça augmente de deux fois l'intensité des rayonnements. Et si on n'est pas bien protégé, à ce moment-là, donc la cornée va absorber et va brûler la kératite. On va même appeler ça la kératite des neiges très souvent parce que ça peut donner des cicatrices qui nous empêchent de voir, qui vont nécessiter éventuellement même jusqu'à une greffe de cornée, mais on peut le régler par des médicaments aussi. Donc, première étape. Donc ça, c'est rare, par exemple. On voit pas ça,
mais les skieurs sont particulièrement à risque.
Oui, skieurs sont à risque. Tout ce qui est surface réfléchissante, mm-hmm. l'eau, le sable et la neige. Donc, quand on va dans le sud l'hiver, quand on est en piscine l'été, quand on va être sur des plans d'eau, de lacs, de rivières, quand on est sur la neige ou qu'on fait des sports de cette nature-là ou même juste se promener, on protège nos yeux. Mm-hmm. Lunettes solaires, protection UV 400, UV 100% nécessaire. Si on est un peu plus sensible à la lumière, les lunettes polarisées qui coupent la moitié de la réflexion, donc c'est encore plus confortable, surtout sur les plans d'eau. Donc, les gens qui sont des pêcheurs, les gens qui sont des, oui. les gens qui font du bateau, les verres polarisés, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on recommande. Cristallin, après ça, notre lentille à l'intérieur de l'œil, qui, elle, est faite pour absorber les rayons, pour protéger la rétine, qui est notre écran sensible au fond de l'œil. Donc, elle absorbe les rayons ultraviolets, puis ça l'endommage pas trop, mais ça l'endommage à long terme. C'est ce qui va nous faire développer des cataractes à 65 ans. Donc, mm-hmm. plus on est exposé au soleil jeune et plus on est exposé au soleil dans notre vie, sans protection toujours, plus on va développer des cataractes intenses et qui vont arriver tôt dans la vie. Donc, nos enfants, maintenant, à cause des rayonnements, puis la pollution, puis la disparition de la couche d'ozone, on leur dit porter des lunettes solaires. Avant ça, on disait chapeau, mais ouais. chapeau, oui, mais ce n'est plus assez protecteur.
Donc, on met des lunettes solaires à nos enfants?
Oui. Oui, OK. Et on met des lunettes solaires de bonne qualité. Donc, mm-hmm. qui ne distorsionnent pas l'image, qui ne donnent pas des maux de tête. Et c'est pas une question de prix. Il y a des lunettes de bonne qualité à 20 $, puis il y a des lunettes de mauvaise qualité à 50 $, puis il y a des lunettes de très bonne qualité à 200 $. Mais dépendant de notre budget, on consulte notre professionnel, l'option optométriste, puis ils ont des produits pour tous les budgets. Mais qui sont de qualité ophtalmique et qui sont surtout protecteurs parce que les enfants, c'est pas juste le verre, c'est la monture. Il faut qu'elle soit résistante à l'impact parce que ouais. si on reçoit un ballon dans la figure puis que la lunette brise puis que ça, les morceaux rentrent dans notre œil, on est protégé du soleil, mais là, on vient d'avoir une déchirure au niveau de la cornée. Ouais. Donc, c'est important.
Donc, allez-y, Dr. Michaud.
Dernier point, la rétine, donc notre écran sensible, si on l'expose trop au soleil, là, les cellules vont mourir prématurément et ça peut déclencher, chez la personne âgée, ce qu'on va appeler la dégénérescence maculaire. Mm-hmm. C'est pas la seule cause de la dégénérescence maculaire, mais c'est une des causes. Donc, dans les mesures de prévention, mettons, votre père, votre mère ont eu de la dégénérescence maculaire, vous êtes plus à risque. On va déjà, dès l'âge de 30, 35, 40 ans, dire aux gens, protégez-vous comme il faut parce que la phototoxicité, donc le soleil et les rayons UV, peuvent être un facteur prédisposant. Vous avez déjà la génétique d'un côté. Si en plus le soleil se met de la partie et si en plus vous avez une mauvaise nutrition, puis si vous fumez, mm-hmm. ben là, vous avez bingo, c'est sûr, vous allez avoir une dégénérescence de votre côté. Alors, donc, il faut se protéger à tout âge.
Lunettes de soleil, est-ce qu'il y a d'autres façons de se protéger? Un chapeau, ça reste toujours de mise?
Chapeau, toujours de mise. En lentille de contact aussi, on peut avoir, pour ceux qui portent des verres de contact, on peut avoir des filtres ultraviolets à l'intérieur des lentilles de contact qui protègent notre œil à 100% contre le rayonnement nocif de cet astre qu'on aime. Et donc, quand vous renouvelez vos lentilles de contact, demandez toujours à votre professionnel qui vous donne un matériau avec protection UV. Mm-hmm. C'est encore plus protecteur. Ça n'empêche pas d'avoir une bonne solaire par-dessus. Et parce que, évidemment, là, on a une protection à 100% complète. Et le verre de contact, en plus, va empêcher, quand on les porte jeunes avec protection UV, de développer ces petites bosses qu'on voit chez les gens de 40 ans et plus, là, à l'intérieur, sur le blanc de l'œil, comme des petites bosses jaunantes qui poussent. C'est des kystes qui viennent avec les effets des UV. Et là-dessus, les lunettes solaires, le choix est important de se faire conseiller par le professionnel. Parce que si on colle mon tour trop droit, trop éloigné de notre œil, le rayonnement qui vient par en haut, par à côté, est plus dommageable que si on n'avait pas de solaire.
Merci, Dr. Langis-Michaud, pour tous ces conseils. Président de l'Ordre des optométristes du Québec, OOQ.org. Toujours un plaisir.
Merci, Mme Paquette.
Au revoir. On se retrouve après la pause. Restez là.
Vous écoutez, c'est bon pour la santé.
Marianne Paquette avec vous pour cette deuxième partie de l'émission C'est bon pour la santé. Vous êtes toujours sur Canal M. Je vous rappelle ce qui s'en vient tout à l'heure. On parlera avec France Cardinal Remette. Elle est infirmière, auteure et enseignante des maladies chroniques. Comment on peut mieux apprendre à vivre avec elle? Et elle sera là, France, pour nous donner quelques trucs. Je vous rappelle que les maladies chroniques au Canada touchent 40% de la population. C'est énorme. Ça vous touche peut-être un proche également. On pourra en savoir davantage avec France Cardinal Remette. Mais pour le moment, j'ai Martin Jarry devant moi. Martin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, de nous présenter votre quotidien et de nous parler de cette maladie avec laquelle vous vivez maintenant depuis 2016, la myosite à inclusion, maladie extrêmement méconnue, mal diagnostiquée. Vous me disiez avant que l'on débute cette entrevue que même certains médecins vous ont demandé qu'est-ce que ça pouvait bien être, avaient aucune idée en fait de ce qu'était la myosite à inclusion. Donc c'est vous qui devez leur donner des informations là-dessus?
Oui, c'est exact. En fait, habituellement, ce sont les neurologues et les rhumatologues qui sont les spécialistes dans ce genre de maladie-là. Et puis, il y a certains neurologues et rhumatologues qui n'ont jamais entendu parler de cette maladie-là. Alors, des fois, quand on me demande quelle maladie que tu as, et je leur dis ça, ils ne sont pas au courant.
Dans votre cas, ça a été diagnostiqué de quelle façon?
En fait, moi, en 2013, on m'a diagnostiqué une leucémie, lymphocytose de type T. En fait, ce que ça veut dire, c'est que dans votre système de défense, vous avez des lymphocytes et vous avez des neutrophiles, les lymphocytes étant vos généraux et les neutrophiles étant vos soldats. Et moi, j'ai beaucoup trop de généraux pour de petits soldats. Alors, j'étais suivi à ce moment-là pour ça, sans aucun traitement. Par contre, j'ai commencé à avoir des faiblesses, on dirait, un à deux ans plus tard, des faiblesses musculaires. Ça devenait de plus en plus dur. Et on me dit, bon, ben on va te faire passer un test sanguin. Et on a vérifié à ce moment-là mon inflammation, donc les CK. Et il était à 2600, alors que chez un homme, c'est 200 environ. Et là, on a investigué biopsie musculaire, EMG, ces choses-là, pour découvrir que j'avais la myosite à inclusion.
C'est une maladie qui est habituellement va toucher des gens à partir de 60 ans et plus. Bref, vous avez 48 ans maintenant?
En fait, lors de mon diagnostic, j'avais 46 ans. Oui. Mais quand je remonte dans le temps, bon, je pourrais dire que j'ai commencé à 44 ans là, à avoir... Parce que vous savez, la myosite inclusion, c'est quelque chose qui dégénère tranquillement. Et le diagnostic est long à avoir, étant donné que c'est une maladie qui est très peu connue.
Oui. Ça a changé quoi dans votre quotidien, Martin Jarry, de vivre avec cette maladie-là?
Ça change tellement de choses au niveau familial, au niveau de l'emploi, au niveau d'où tu demeures, parce que moi, plus ça va, plus je perds de la force physique. Et maintenant, juste ouvrir une canette, là, pour moi, c'est difficile, là, avec mes doigts, surtout ma main droite. Couper mes ongles avec un petit coupong, je ne suis pas capable, la main droite. C'est toutes des petites choses anodines, mais... monter des marches, c'est plus difficile. Se lever d'un divan, c'est plus difficile.
C'est anodin, mais quand on les accumule, ça devient, bon, ça devient majeur. C'est important de dire, je l'ai dit en début d'émission, vous étiez policier, vous étiez extrêmement sportif, entraîneur de hockey. J'imagine que ces activités-là, il faut les mettre de côté.
Oui, effectivement, ça devient... On vit des deuils un peu à toutes les semaines, hein, parce que les choses que tu aimes, tu ne peux plus les faire nécessairement. Pour contrer un peu ça, c'est pour ça que j'ai fait des recherches, parce que je voulais, un, faire connaître la maladie, et je voulais pas m'asseoir chez moi, puis dépérir à vue d'œil, puis mourir tranquillement un petit feu. Alors, c'est pour ça que je me suis mis comme défi de courir un 10 km avec le dermosquelette que j'ai de chez Bitemia.
Ouais. D'ailleurs, vous dites que ce dermosquelette que vous avez a probablement servi à attirer l'attention des médias.
Effectivement, parce que c'est une maladie qui n'est pas sexy, hein, de dire « bon, j'ai une myosite inclusion, ça touche les gens de 60 ans et plus. » Et je le dis comme ça, mais je ne peux pas rivaliser avec un enfant qui a le cancer, qui n'a plus de cheveux, qui a 2 ans, 4 ans, tout ça. Alors, je me dis comment je peux trouver une façon intelligente de pouvoir approcher les gens pour qu'ils me demandent « c'est quoi la myosite inclusion? » Et effectivement, cet appareil-là, en fait, en plus d'aider les gens qui ont la maladie, ça apporte un regard sur la maladie incroyable parce que les gens regardent l'appareil, sont fascinés par ça, et là, ils me demandent « pourquoi tu as ça?
Mm-hmm, » mm-hmm.
Alors là, je peux apporter le fait « je connais pas ça. »
Vous pouvez engager le dialogue.
Exactement.
De quelle façon ce dermosquelette est arrivé dans votre parcours?
Tout à fait par hasard. Dans le journal de Montréal, je lisais, il y avait la page « On vous explique en 5 minutes
mm-hmm. ».
Et il y avait un reportage sur le dermosquelette. Alors, j'avais vu ça au mois de mai, pas de cette année, l'année passée. Et j'avais dit « waouh, ouais, ça serait bon pour les gens qui ont ma maladie. » Mais j'avais mis ça de côté parce que j'avais tellement de choses en tête, ces choses-là. Et j'ai ressorti ça au mois de novembre. Et j'ai communiqué avec la compagnie Bitemia. Et ils ont accepté de me rencontrer. Et c'est de cette façon-là qu'on a été mis en contact. Et je leur ai expliqué ma maladie. Eux non plus connaissaient pas ça. Et cet appareil-là servait pour l'armée américaine et pour certaines personnes qui avaient des problèmes comme les arthroses du genou, la sclérose en plaques. Et là, pour eux aussi, la myosite inclusion, c'était quelque chose de nouveau.
Ça vous permet de modifier votre quotidien de quelle façon, ce dermosquelette?
En fait, pour l'instant, ma condition ne me permet pas de le porter à tous les jours parce que je m'entraîne depuis un an régulièrement, tous les jours, ces choses-là.
Tous par les contre, jours, oui, deux fois par jour, sept fois par semaine.
Oui, c'est exact. Exact. Ouais. Pour garder mes muscles le plus actifs possible et le plus longtemps possible. Par contre, pour courir le 10 km, mes quads ne suffisaient pas à la tâche. Donc, cet appareil-là m'aide, parce que c'est pas un robot, hein. C'est quelque chose qui t'aide à faire le mouvement. Ouais. Donc, monter les marches, c'est plus difficile maintenant parce que je dois forcer des quads. Bon, masser aussi et me relever, c'est la même chose. Donc, cet appareil-là m'assiste. Donc, j'engrange le mouvement pour me lever et il va m'aider à me lever.
Si vous pourriez nous le décrire, ça ressemblerait à quoi?
En fait, c'est un appareil qui va aux jambes et qui a 6 capteurs et c'est motorisé. Il y a un petit ordinateur sur le côté qui analyse chaque mouvement que je fais et m'aide à faire ce mouvement-là, donc me donne une force supplémentaire pour pouvoir exécuter le mouvement que je veux.
Ouais. Et Martin a eu la gentillesse de fermer ce petit moteur, ce petit ordinateur pour ne pas faire de bruit en studio. Merci beaucoup, Martin, de cette sensibilité. Je veux revenir à cet objectif que vous avez de parler davantage de la myosite à inclusion. Vous le faites un à un, j'imagine, en discutant avec les gens que vous rencontrez de votre quotidien. Mais il y a aussi toute l'interpellation du domaine de la communauté médicale. À qui, bon, vous voulez présenter cette maladie-là parce qu'il n'y a pas de recherche en ce moment au Canada?
Non, effectivement, au Canada, les recherches sont inexistantes. Alors, il faut se tourner vers les États-Unis, il faut se tourner vers l'Europe, la France et ces choses-là. En fait, les Canadiens sont exclus de toutes les recherches.
Mm-hmm.
Bon, moi, je travaille extrêmement fort pour faire inclure des Canadiens. Il y a une recherche qui s'en vient sur le arimoclomol, qu'on appelle.
Qui
est un médicament. Et c'est le docteur Mazen Dimachki de Kansas City qui va avoir besoin de 150 patients pour cette étude-là, qui devrait débuter en août. Et ça fait un an environ que je travaille. Je l'ai rencontré à deux occasions. Je lui ai demandé d'inclure une douzaine de Canadiens dans son étude. Les sites sont tous aux États-Unis et un en Angleterre. Et pourtant, on est collés juste à côté, là.
Ouais.
Et la valeur du dollar américain est beaucoup plus que la valeur du dollar canadien. Alors, mais étant donné que Santé, Bien-être, Canada ne participe pas vraiment à ces études-là, et j'imagine qu'en Europe, ils participent beaucoup plus, le gouvernement. Alors, tous les Canadiens, on est exclus.
Ouais.
Bon, j'essaie de l'approcher pour essayer d'inclure là, une douzaine de Canadiens.
Mais c'est pas fait encore.
C'est pas fait encore, mais je travaille fort.
OK. Parce qu'il y a quand même des équipes ici au Canada, même au Québec, qui s'intéressent à cette maladie, la myosite à inclusion, à Maisonneuve-Rosemont, du côté aussi de McGill, du centre de santé du CUSUM. Est-ce que ces médecins-là, vous avez réussi à leur parler?
Oh, je leur parle constamment, puis eux sont tellement heureux de la publicité maintenant qui entoure tout ce que je fais, parce que pour eux, c'est difficile de faire ce que moi je fais et de faire connaître la maladie. Ils sont dans, on parle de docteur Mary Hudson de McGill, on parle de docteur Yves Troyanov. C'est des gens qui font beaucoup pour la myosite, mais ils n'ont pas le temps de faire ce que moi je peux faire, d'essayer d'exposer cette maladie-là ou de courir après les médecins américains pour... Et il y a Dr O'Farrell aussi, qui est neurologue, et Dr Jean-Saint-Louis, qui est mon hématologue.
Oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire beaucoup pour leurs patients, mais peut-être pas pour la cause. Et vous devenez un peu, Martin Jarry, le porte-parole de la myosite à inclusion. Vous avez besoin de quoi en ce moment? Oui, qu'on s'intéresse à vous chez nos voisins du Sud. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez lancer comme message ou comme sensibilisation aux gens qui nous écoutent?
Oui, en fait, c'est... Écoutez, les gens peuvent toujours aller voir sur le site de www.myosotis.ca.
Mm-hmm.
Cet endroit-là, ça l'explique beaucoup. C'est quoi? Parce qu'il y a 4 sortes de myosite. En fait, il n'y a pas juste la myosite inclusion, mais dans les 4 sortes de myosite, il y en a une qui est incurable et c'est la myosite inclusion. Mais c'est le support que j'ai de besoin. Et écoutez, si vous connaissez des gens qui ont cette maladie-là, les gens peuvent communiquer avec moi par mon Facebook. Je l'ai ouvert au grand public. Oui. Gênez-vous pas, faut pas se peinturer dans un coin, parce que la plupart des gens qui ont cette maladie-là,
c'est ça, parce
qu'ils pensent qu'ils sont seuls au monde. Et souvent, ils se font dire par le médecin, écoute, on peut rien pour toi. Alors, ils se peinturent dans un coin, ils s'isolent, mais faut pas, parce qu'il y a des alternatives. Il y a l'appareil, il y a Myosotis Canada, il y a le TMA qui est de Myosotis Association. L'entraînement est très important.
Oui. Vous l'avez dit, incurable.
Oui.
Je vais terminer là-dessus, Martin Jarry. Vous le faites pour les autres davantage que pour vous. Vous avez cette conscientisation-là aussi.
C'est clair, là. Écoutez, tous les témoignages que je reçois des gens qui ont ma maladie, l'espoir que je vois dans leurs yeux ou dans leurs messages, pour moi, ça vaut de l'or, là. C'est fou parce que je ressens cet espoir-là parce que les gens, ils abandonnent. Et là, il y a des gens qui recommencent à s'entraîner, qui ont la maladie comme moi, puis là, qui sont vraiment en chaise roulante, des choses comme ça, puis ils ont communiqué avec des kinésiologues pour essayer, parce qu'ils ont cet espoir-là. Puis je trouve ça tellement important.
Oui. Merci de redonner cet espoir-là aux gens et à leurs proches aussi. Martin Jarry, on mettra votre page Facebook sur notre site et également toutes les ressources et informations que vous avez pu nous livrer aujourd'hui. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
France Cardinal Remette, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, dernière chronique de la saison pour C'est bon pour la santé. On parle de maladies chroniques et ça devrait intéresser pas mal de monde parce que plus de 40 % de la population est touchée au Québec. Donc, soit nous, de façon personnelle ou un proche, et tout ça va probablement aller en augmentant en plus.
Oui, effectivement. Le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques augmente partout dans le monde, hein, surtout dans les pays industrialisés. Et l'Amérique du Nord, bien sûr, n'y échappe pas. Alors, ce qui est particulier avec les maladies chroniques, c'est qu'elles se développent souvent à l'insu de la personne. Hein. Ça progresse tranquillement. Souvent, il n'y a pas vraiment d'indice. C'est lors d'un bilan annuel chez le médecin qu'on dépiste, par exemple, un début de diabète, une hypertension, parce que les signes ne sont pas toujours là au départ.
Oui.
Maintenant, l'autre caractéristique, c'est que les maladies chroniques sont là pour rester. Hein, quand le mot le dit, hein, chronique, alors c'est pour longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces maladies chroniques, ces fameuses maladies dont on ne veut pas? Alors, je dirais qu'il faut tenter le plus possible les prévenir quand on peut le faire. Même si on en a déjà une, rien ne dit qu'on ne pourra pas en développer d'autres. Plusieurs personnes sont prises avec une complexité de problèmes de santé, ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, la comorbidité, où on peut être aux prises à la fois avec l'hypertension, le diabète,
l'obésité,
un taux de cholestérol trop élevé dans le sang, etc. Hein, on le sait, on connaît des gens qui sont aux prises avec ces problèmes-là. Et bien sûr, ça peut affecter plus tard la qualité de vie et contribuer à une grande perte d'autonomie.
Ouais.
Les gens ne réalisent pas toujours. Mais même si on commence à être atteint, on se dit « Ah ben oui, c'est pas si mal, je vis quand même normalement ». Beaucoup de gens aussi vont prendre des médicaments puis vont continuer leurs habitudes de vie en même temps en se disant « j'ai des médicaments, c'est correct ». Alors là, il faut peut-être se re-questionner par rapport à tout ça.
Et on peut travailler sur plusieurs volets pour arriver à les prévenir.
Oui, tout à fait. Parce que le deuxième volet dont on veut parler aujourd'hui, bien sûr, c'est comment les gérer, ces fameuses maladies-là.
Oui. J'ai été étonnée de voir que dans les maladies chroniques les plus récurrentes, vous avez parlé de diabète, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, de cancer, qui est une maladie chronique.
Oui.
Il y a aussi la dépression.
Oui, la dépression considérée comme une maladie chronique. Oui, l'Alzheimer aussi. Quelqu'un qui souffre d'une maladie d'Alzheimer, c'est une maladie chronique qui est évolutive, hein, finalement.
Parce que je pense que pour bien les prévenir, il faut les connaître, ces maladies-là.
Oui.
Les identifier aussi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que les maladies chroniques les plus communes, là, je peux les nommer, il y a l'arthrite, hein, on en entend parler beaucoup, le cancer, on l'a mentionné, les maladies pulmonaires obstructives chroniques comme l'emphysème.
Mm-hmm.
On a également, bon, on l'a dit, le diabète, toutes les maladies reliées au système cardiaque. On a l'hypertension qui est vraiment un symptôme, finalement, d'une prochaine maladie, mais on l'appelle maladie quand même chronique, hein, l'hypertension. Les troubles de l'humeur, dont aussi, là, on se raccroche à la dépression.
À la dépression.
C'est ça.
Je veux revenir sur la prévention, France. qu'est-ce qu'on doit avoir en tête pour tenter de les prévenir, ces maladies-là?
J'ai le goût de te répondre, Marianne, avec les facteurs de risque. Parce que c'est vraiment quand on comprend tous les facteurs de risque là, qu'on peut vraiment savoir comment on peut agir pour prévenir. Il faut comprendre que ces maladies-là sont le résultat souvent d'un phénomène très complexe, d'une superposition de facteurs. Alors, il y a des facteurs sur lesquels on peut agir, mais il y a des facteurs sur lesquels on peut moins agir.
Oui, comme notre âge, par exemple.
Exact. L'âge, le sexe, le niveau d'éducation, bon, on le met comme facteur de risque. Là. Puis évidemment, notre constitution génétique. Hein, oui. Ça, on peut pas changer. On est né avec nos gènes et voilà. Il y a des facteurs sur lesquels on peut agir. Puis on est, même Dr. Richard Béliveau en parle souvent et toute la littérature est derrière lui et moi aussi, bien sûr. Ce sont les habitudes de vie, les modes de vie qu'il faut changer. Entre autres, le premier, le tabagisme.
Oui, et par la suite, l'alimentation.
Bien sûr, l'activité physique. Aller prendre l'air, apprendre à respirer comme il faut, à se détendre aussi pour pouvoir se sentir bien dans sa peau, puis aller de l'avant. Mais effectivement, les facteurs, il faut agir sur l'obésité puis l'inactivité physique, sont interreliés finalement à l'alimentation. Mais vient en premier lieu le tabagisme. Je le répète encore, c'est si important. Maintenant, tout l'environnement, c'est un autre facteur. Hein. Des gens qui travaillent dans des environnements de travail où il y aurait des produits chimiques, bien, c'est sûr que ça peut affecter quelque chose dans le système de santé. L'exposition des pesticides aussi, hein, on en parle. Même dans ce qu'on mange, il faut maintenant faire attention. Certains fruits et légumes qui contiennent des pesticides. Alors, s'informer un peu à ce niveau-là
le
également.
Le soleil, on en parlait tantôt avec Dr. Langis Michaud. On s'en protège, c'est important.
Oui, pour éviter les cancers de la peau, effectivement. Et il y a aussi la pollution atmosphérique sur laquelle on n'a pas toujours... Je pense que les sociétés ont des rôles à jouer, des responsabilités, mais nous, comme individus, bien, on peut contribuer un peu, mais peut-être moins directement que d'arrêter de fumer ou de s'exposer à une substance quelconque là, qui pourrait vraiment endommager nos poumons ou notre système. Maintenant...
On parle peut-être de gestion, parce que c'est au cœur de cette chronique-là, comment mieux vivre avec la maladie chronique. Et... vous dites quelque chose d'assez intéressant, France Rémette, c'est de s'engager dans notre traitement.
Exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Maintenant, la nouvelle tendance, c'est vraiment d'établir des partenariats. Les équipes médicales, là, ce qu'ils veulent, c'est établir des partenariats avec leurs patients et avec les familles. Ils ne demandent que ça. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut s'engager dans son plan d'intervention. Il faut écouter les consignes, mais il faut aussi interagir et dire, écoutez, cette consigne-là que vous me demandez de suivre, je ne serais pas capable pour telle raison. Il n'y aurait pas une solution de compromis. Et les gens vont essayer de travailler avec la personne pour trouver d'autres solutions pour que la personne puisse quand même respecter d'une façon acceptable son plan d'intervention. Je le mentionnais tantôt, il y a des gens qui se disent que, bon, ben moi, j'ai des médicaments, je n'ai pas à m'en faire. Non. Il faut vraiment regarder nos habitudes de vie puis faire des modifications en complément avec la médication qu'on pourrait avoir à prendre, par exemple.
Oui.
Je donne ça comme exemple.
Et se renseigner sur la maladie chronique que l'on a.
Et oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, entre autres sur le web, pour les gens qui ont la possibilité d'aller sur le web. Il y a des associations, souvent, qui sont raccrochées aux problèmes de santé qu'on a. Mais il y a aussi ce qui a été développé dans les milieux de santé. Ce sont des cliniques qui ciblent, par exemple, le diabète ou les maladies obstructives chroniques au niveau pulmonaire. Des gens qui auraient des insuffisances cardiaques ou rénales ou autres. Il y a des équipes. Il y a aussi maintenant le concept des infirmières pivots, là, très important. Retenez ça, infirmières pivots. Souvent, même pour des cas de cancer en oncologie, là, on va référer à l'infirmière pivot pour comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai été confrontée à ça moi-même. Pourtant, j'ai même écrit un livre sur le sujet. Et je m'occupais d'une personne âgée. Et j'essayais de voir le médecin, j'essayais de parler à l'infirmière-chef. J'avais l'impression de tourner en rond. Tout à coup, quelqu'un m'a mentionné le nom d'une infirmière qui était l'infirmière pivot de l'hôpital pour les cas de cancer. Et je suis descendue, je suis allée à l'étage, je l'ai rencontrée. Puis j'ai rencontré une infirmière absolument accueillante qui connaissait tout le dossier de cette personne-là. Puis c'était vraiment elle qui a pu m'informer là, comme il le fallait. Alors, il faut vraiment cerner qui s'occupe vraiment du dossier de la personne. Ce n'est pas nécessairement sur l'étage où est la personne. Il y a des personnes nommées, désignées dans les milieux de soins pour nous aider, nous accompagner.
Ouais. On pense qu'on est laissé à nous-mêmes, mais pas tant que ça. Il faut juste savoir cogner à la bonne porte, trouver cette porte-là en premier lieu.
Tout à fait.
Pour s'engager dans son traitement, dans ce parcours-là qui est teinté de la maladie chronique, on peut, comme vous le mentionnez, prendre un petit rendez-vous avec soi-même. Ça, c'est un truc que vous avez.
Oui, tout à fait. Je vous propose des questions à se poser pour prendre rendez-vous avec soi. Se poser les questions suivantes. Quelles sont les réactions que cette annonce de la maladie chronique a suscité en moi, tu sais, au niveau des attitudes, des émotions? Alors, prendre contact avec soi-même par rapport à comment on vit cette annonce-là, finalement. Quel est votre plus grand défi, inquiétude ou préoccupation concernant le diagnostic et l'évolution de votre maladie? Ça va peut-être vous aider à formuler des questions pour votre prochaine visite lorsque vous allez rencontrer le médecin ou l'infirmière. Pouvez-vous identifier ce qui pourrait vous aider le mieux? Qui pourrait vous aider le mieux aussi?
Ouais.
C'est une autre question, hein? De quelles informations avez-vous besoin pour prendre les meilleures actions pour vous, pour gérer vous-même votre problème de santé? Ça aussi, des fois, on manque d'informations, on ne sait pas trop se diriger. Alors, au moins, dire, bien, je ne comprends pas telle affaire par rapport à ma maladie. Je ne comprends pas la réaction que j'ai par rapport à telle chose. Pourquoi j'ai ça? Bon, bien, il faut s'informer à ce moment-là. L'écrire, n'hésitez pas à écrire, prendre des notes au fur et à mesure par rapport à vos observations, vos inquiétudes. Pouvez-vous identifier qui peut vous soutenir le mieux? Est-ce que c'est un proche, un professionnel de la santé qui vous accompagne? Ça aussi, c'est important. J'en ai parlé un peu tantôt, d'ailleurs.
Vous parlez aussi de ce qui peut être bien important dans ce processus-là, c'est de ne pas se culpabiliser, de ne pas se blâmer.
Oui, oui, effectivement. Parce que, premièrement, ça ne donne rien. Mais il y a des gens qui vont dire « je me suis créé mon cancer ». On entend ça des fois. Il ne faut pas avoir cette attitude-là, mais pas du tout. Je le mentionnais, c'est complexe une maladie. Il y a une superposition de facteurs. Oui, ça se peut que la personne ait fumé et qu'elle ait un cancer au niveau des poumons, mais il y en a d'autres qui vont fumer puis qui n'en auront pas non plus.
Puis il y en a d'autres qui ne fument pas et qui en ont
exactement,
un aussi.
Exactement. Et oui, ça aurait été préférable de ne pas fumer, mais maintenant, là, on vit avec cette maladie-là. Alors, il faut partir d'ici maintenant et vraiment prendre soin de soi puis arrêter de se blâmer puis se culpabiliser. Pour moi, c'est très important, cet aspect-là.
Oui.
Puis aussi, de ne pas accepter que les gens nous blâment. Ça aussi, c'est un autre aspect.
Oui, et ça devient assez complexe parce qu'une maladie chronique, et on n'en a pas beaucoup parlé, ça implique toute la famille et tous les proches.
Tout à fait, parce qu'on le voit, hein? Ah ben oui, on sait bien, elle avait tellement fumé. Non, il ne faut pas avoir cette attitude-là. Puis il faut en parler avec les siens, puis leur expliquer comment ça peut nous blesser et même limiter notre guérison par rapport à ce qu'on vit.
Ouais. Maintenant, vous avez, comme à l'habitude, des ressources pour nous, France?
Oui, j'ai des ressources pour vous. Alors, les ressources pour les proches aidants, l'appui, entre autres, qui peut être très intéressante. Il y a une foule d'informations, de solutions qu'ils peuvent vous fournir. C'est www.lappui.org.
Oui.
Il y a aussi un programme service pour les aînés à Service Québec Citoyen où il y a une gamme d'informations très pertinentes, importantes à tous les niveaux, même légales et des ressources financières, etc. Alors, www.gouv.qc.ca. Il y a toutes les villes, les municipalités qui ont différents programmes communautaires et qui peuvent aussi vous orienter vers des organismes communautaires pour aller chercher des groupes de soutien. Il y a des classes d'exercices qui sont offertes. Aussi, il y a du répit qui peut être offert par le CLSC. Alors, le CLSC est toujours la ressource clé et pivot, là aussi, pour permettre un répit aux familles. Alors, aller cogner à la porte, c'est très important. Et il y a l'hôtellerie de la Fondation québécoise du cancer, la Société canadienne du cancer, qui peut favoriser des ressources d'hébergement pour les gens qui vivent en région. Pour les autres problèmes de santé autres que le cancer, bien, il y a des travailleurs sociaux, des CLSC, des hôpitaux qui peuvent vous orienter et vous donner certaines informations. Il y a aussi les fondations comme Fondation des maladies du cœur, Fondation du diabète, etc., qui offrent une aide financière de dépannage dans certains cas pour des gens qui ont des gros problèmes financiers.
Et comme Maladie chronique va souvent avec Proche aidant, il y a toujours votre livre « Quand la vie se fragilise, un guide pour vous et vos proches aidants », France Cardinal Raimette. Merci beaucoup, toujours un plaisir.
Merci, Marianne.
Dernier segment de cette émission où j'aime prendre le temps d'attirer votre attention sur soit un documentaire, une conférence, un livre qui peut vous faciliter la vie, vous faire réfléchir. Je vous parle du documentaire Minimalism qui est disponible dans son intégralité sur Netflix et qui questionne notre rapport à la consommation, à la possession de biens matériels, à notre société qui est vraiment baignée dans la surconsommation. On y suit deux jeunes ex-workaholics des États-Unis, dans la jeune trentaine, qui avait un gros boulot, qui faisait beaucoup d'argent dans une grande entreprise. Il travaillait dans la vente et qui, à un moment donné, se rendait compte que oui, il faisait beaucoup d'argent, mais en dépensait encore plus et finalement vivait avec des dettes. Ils ont réalisé que ça faisait pas partie de leurs valeurs et qu'ils étaient malheureux dans ce mode de vie-là. Ils se sont lancés le défi, ces deux collègues-là, de se départir de leur objet, de vivre un mode de vie plus sobre et de tenter cette expérience-là qu'ils partagent sur leur site web d'ailleurs de minimalist.com à travers ce documentaire Minimalism sur Netflix, mais aussi à travers des podcasts, à travers des conférences TEDx. Donc, c'est vraiment comment adopter cette tendance minimaliste de se départir d'objets. Eux, ils sont rendus à 288 biens matériels. C'est très peu. Faites le tour de votre maison, là, vous allez réaliser que des objets, vous en avez beaucoup et que la plupart d'entre eux sont inutiles, que vous ne les avez pas utilisés dans les 6 mois ou peut-être même dans la dernière année. C'est une belle réflexion à avoir, une réflexion de laisser aller et de vous demander, est-ce que ces objets-là, j'en ai besoin? Est-ce qu'ils sont utiles? Est-ce qu'ils me rendent heureux? Surtout avant l'achat. Donc, cette tendance minimaliste là, qui gagne vraiment en popularité et qui peut peut-être nous ramener à l'essentiel. Voilà, c'est la petite proposition que je vous fais, Minimalism, ce documentaire sur Netflix. Merci, dernière émission de C'est bon pour la santé de la saison. Je remercie mon équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde avec Jean-Sébastien Laliberté, Sylvie Rivard à la recherche chez Christiane Campagna aux médias sociaux et à la revue de presse. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pendant toute l'année. Marianne Paquette, qui est au micro, je vous salue. Allez sur notre site web, canalm.vusezvoix.com. On est en rediffusion à 17h et présent sur Facebook et Twitter. Bon été, portez-vous bien, bye bye.